Trainville BM. La voie est libre.
Quand on cédule un certain nombre de personnes à opérer, à ce moment-là, on est sûr de les opérer. Si vous avez cédulé 8 personnes, 7 personnes, 9 personnes, elles ne seront pas annulées parce qu'il y a une césarienne d'urgence qui coupe votre salle, parce qu'il y a un trauma de la circulation. Il est sûr d'être opéré.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était la docteure Dominique Sinotte, donc la chirurgienne en oncologie à Sacré-Cœur, qui défend le modèle des 3 cliniques privées à qui on donne des chirurgies d'un jour, comme on les appelle, mineures, mais même si ça te fait mal,
payé
en maudit.
Payé par l'État. Payé par l'État. Le médecin payé par l'État et la chirurgie elle-même.
Oui.
Alors, moi, je profite de cette nouvelle-là qui est sortie dans le journal La Presse et dont tu as parlé à ton émission avec 2 invités. Pour dire aux gens, moi, quand vous m'entendez souvent parler de la présence du privé en santé, il y en a beaucoup qui réagissent en disant « Ah non, on ne se retrouvera pas comme aux États-Unis où il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des soins. » Jamais ça me traverse l'esprit. Ce qui me traverse l'esprit, c'est que je suis convaincu qu'avec toutes les années où on a bâti ce système de santé qui forcément est en croissance constante avec l'inversement de la pyramide démographique.
D'accord.
À chaque fois, on est devenu de moins en moins efficace et de plus en plus coûteux à cause de conventions collectives qui ont 1000 pages, à cause de politique centrale du ministère, à cause d'approvisionnement, à cause de gestion...
Toi, tu dis qu'on est de moins en moins efficace?
De moins en moins efficace sur le plan monétaire, sur le plan économique.
Je ne sais pas, ça, Luc.
Ah oui, c'est le cas. Absolument, c'est le cas. Clair, quand tu regardes des choses comme celle-là, tu le vois. Comment se fait-il que...
Je discute pas là qu'on pourrait être plus efficace, évidemment, là. Mais je ne suis pas sûr qu'on est moins efficace.
Moi, je pense qu'on l'est.
Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus efficace, ça, c'est sûr. Notamment avec l'informatisation qui n'arrive pas, là.
Donc, je reviens à mon propos. Quand je défends l'idée du privé en santé, une des choses que je fais toujours valoir, c'est l'idée que ça nous prend des comparables. C'est vrai dans tous les domaines de l'activité économique, que ce soit de la santé ou de la construction.
La concurrence.
Ça prend une forme de... En tout cas, dans ce cas-ci, c'est pas tant la concurrence que la capacité de comparer. Pourquoi ça marche mieux quand t'es dans une des 3 cliniques privées? En ce sens que ça a toujours lieu, ça commence toujours à l'heure, ça finit toujours à l'heure. Juste ça, là. T'as rendez-vous tel jour, bang! T'arrives là, c'est 8h le matin, à 8h pile,
l'opération. Tu rentres dans la salle d'opération.
Puis en plus, ça a été aménagé de telle sorte que les salles de préparation sont adjacentes. Ça a été programmé de telle sorte que quand l'intervention prend fin, tout de suite, les équipes spécialisées en ménage, parce que c'est pas juste des gens qui passent de balai, là, quand on parle de salle de chirurgie, tout le monde est là, tout fonctionne. Donc, il y a un mode de fonctionnement qui nous démontre que le mode dans le public a quelque chose qui boite.
C'était un des objectifs de Gaétan Barrette quand il a mis sur pied ses 3 projets pilotes avec les 3 cliniques privées qui sont Rockland MD,
celle de Laval.
L'OPMEDIC de Laval.
C'est ça.
C'était effectivement, il appelle ça là, en jargon bureaucratique, faire de l'étalonnage, c'est-à-dire d'être capable de comparer justement la productivité, le rendement, comme la doc qu'on vient d'entendre.
Et ce qu'on appelle les meilleures pratiques.
Pratiques.
Best practice.
Meilleures pratiques, c'est bien ça.
Alors, si tu veux pouvoir comparer les meilleures pratiques, tu peux pas te comparer aux États-Unis, ils n'ont pas de système comme le nôtre.
Non.
Tu peux te comparer à des provinces voisines. Puis tu peux te comparer au privé, d'une part. D'autre part, le projet pilote, là, non seulement il devrait continuer, il devrait s'élargir.
Il va continuer.
Il devrait y en avoir davantage.
Il va continuer.
Parce que moi, ce que je veux, c'est des services pour la population.
Entends-tu?
Va
continuer.
Oui, je le sais, Bernard, t'as toujours toutes les exclusivités.
Non, c'est pas ça. Non, mais celle-là, de bonne source. Ça va continuer.
Pourquoi pas?
Mais
j'aimerais que ça s'élargisse. J'aimerais que ça s'élargisse parce que moi, ce que je veux, c'est que les Québécois aient accès à des services de santé de top qualité. Comprends-tu? Puis à l'heure actuelle, on a la compétence des médecins puis des infirmières qui est là, mais il faut qu'il y ait une gestion des lieux, une gestion du travail, une gestion des horaires et tout ça qui soit conforme aux meilleures pratiques qu'on pourrait retrouver si elles étaient dans le secteur privé, parce que le secteur privé, lui, faut pas l'oublier. Je vais exagérer peut-être le mot, mais il y a comme un gun sur la tête. Je veux dire, s'il perd de l'argent, il va faire faillite. Tu comprends-tu?
Puis comme on le sait, le ministère de la Santé, il verse un pourcentage de 10 %. Ben oui. 10% de profit,
10% de
pour
profit.
chaque intervention. Ben alors, mettons qu'une intervention pour une hernie discale, tiens, mettons que la Rocklin MD charge du n'importe quoi, là. Mettons 5 000 $.
Oui.
Bon, ben, c'est 5 000 $ plus 500 $ qui s'en va à la clinique. Mais comme je disais tout à l'heure au représentant de la CSN, représentant de la santé, M. Begley, qui, comme tu l'as noté tout à l'heure, ne ferme pas la porte, n'est pas...
Disons qu'elle est entrouverte, pas beaucoup,
il n'est pas venu en onde pour dire c'est épouvantable, les 3 cliniques privées, c'est pas bon. Non, non, il dit j'attends des réponses à mes questions, mais c'est pas le front du refus d'emblée. Tu sais, il ferme pas la porte parce que il fut un temps, il y a quelques années, la CSN serait sortie pour dire.
J'ai été étonné que la porte soit entrouverte de demi-pouce.
Oui, j'ai hâte de voir.
Étonné de voir ça. Mais c'est sûr qu'ultimement, les syndicats vont s'y opposer. Parce que la clinique de Rockland MD, que j'ai déjà eu une intervention chirurgicale, là, une intervention d'un jour, comme on dit.
Ouais.
C'est superbe, c'est propre, ça marche. Puis toute
comme
l'affaire.
Si tu étais chez le dentiste.
Oui, mais ils ne sont pas dans le syndicat.
Bien, ça dépend. Moi, je pense que dans certains cas, tu dois avoir des infirmières qui travaillent à Sacré-Cœur à côté, qui sont des syndiqués FIC, puis qui vont faire des interventions à Rockland MD.
Ça se peut.
Je pense pas que l'un empêche l'autre.
Ben oui, mais là, ce que tu veux dire, c'est la personne aurait sa job dans le public, puis elle ferait des heures supplémentaires dans le privé. C'est ça que tu veux dire. C'est pas impossible. Mais moi, je connais, j'avais vu chez Rockland MD, 2 infirmières, parce que ça m'intriguait. Ouais. D'abord,
tu leur as demandé si elles étaient syndiquées?
Oui.
Puis elles t'ont dit non?
Non seulement, je leur ai demandé si elles étaient syndiquées, mais si c'était des meilleures conditions, si elles avaient déjà été dans le public.
Oui, oui.
Les deux m'avaient dit avec enthousiasme, jamais on retournera dans le secteur public. C'est tellement plus simple ici. Êtes-vous syndiqué? Non, on n'est pas syndiqué, mais
il y en a qui venaient des agences. Il y avait des agences de placement privé, des agences d'infirmières.
Je me souviens pas de ça, là, mais ce qu'elle m'avait dit, c'est, écoute, on travaille dans un environnement efficace, dans un environnement, et ça... C'est malheureux de le dire, mais d'une propreté exemplaire. Il n'y a pas de moisissure dans les plafonds à quelque part. Puis des affaires
en même
comme
temps,
ça.
C'est des édifices neufs ou très récents. On n'est pas dans
mieux.
Les vieux hôpitaux. Mais c'est sûr, ça.
On n'est pas obligé de tout construire avec l'argent de l'État. On peut avoir une économie mixte. La Suède, qui est toujours le modèle de la social-démocratie, le fait. D'autres le font.
La France.
La France le fait. L'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, tout le monde le fait, sauf nous.
Là, je vais mettre les lignes à l'eau, comme on dit. 790-9850, est-ce que vous êtes d'accord avec Luc là-dessus, vous? C'est-à-dire une clinique privée qui donne un service public. Vous arrivez là, vous prenez votre carte d'assurance maladie, puis, je veux dire, vous ne payez pas un sou de plus. C'est en vertu d'une entente entre le système public, ministère de la Santé.
Et l'acte médical est également couvert par la RAMQ. Qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de privé, en fait, sauf le fait que la clinique...
Sauf que l'endroit est opéré par le privé.
Voilà, exactement. 790-9850, je ne sais pas si... Je pense bien que la majorité, Luc, vont nous dire, regarde, en autant que le service est donné, si c'est efficace, si c'est vrai, puis j'ai pas de raison de douter que c'est vrai, comme le dit la docteure Sinotte, là où j'opérerais 3 ou 4 fois par jour à Sacré-Cœur, je passe 8 ou 9 patients à Rockland MD. Exactement. Parce que je me fais pas tasser par l'arrivée d'un patient qui arrive à l'urgence parce qu'il vient de se faire frapper par un char.
Ou une absence de quelqu'un qui s'est pas présenté au travail pour maladie.
D'accord.
Ou quelqu'un qui vient de quitter sa job parce qu'il était tanné. Rockland MD ou les équivalents, il faut qu'ils livrent.
Alors, c'est Martin qui nous appelle? Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, je suis totalement d'accord avec ce système-là. Écoutez, au bout de la ligne, c'est que on est des payeurs de taxes, mais on est des clients du système. Je veux dire, si moi, mettons, j'attends un remplacement d'une hanche, puis qu'on me dit que ça va me prendre 1 an et demi pour avoir ça, puis au privé, je pourrais l'avoir en dedans de 4 mois, mais je veux dire, moi, j'ai une genre de perte de jouissance de la vie, du temps entre le privé puis le public. Donc, je veux dire, le système fonctionne en Suède. Puis aussi dans le public, c'est qu'on n'est même pas capable de savoir les véritables coûts d'une opération. Personne ne le sait. Donc, je veux dire, si on est capable de sortir du sacro-saint système syndical que l'État doit tout contrôler ici, puis peut-être s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs, ça pourrait être une bonne solution. Puis de toute façon, je veux dire, moi, j'ai des jeunes enfants. Je l'utilise, ce système-là, savez-vous où? Chez le dentiste.
Bien ça.
Je vais avec mes enfants chez le dentiste, je donne la carte soleil, je reçois d'excellents services. Puis le dentiste s'occupe de facturer le gouvernement, il s'occupe d'administrer le building, le staff, puis de s'assurer de la qualité du service.
Merci.
Donc, la solution, elle existe déjà ici. C'est juste pour avoir le courage de le faire.
De l'étendre. Merci, Martin.
Merci beaucoup. C'est le temps qu'on s'éloigne des dogmes puis qu'on dise c'est quoi la solution.
Puis qu'on regarde les résultats.
Oui,
hein, qu'on regarde les résultats. Qu'on regarde les résultats. Jacques, bonjour.
Bonjour, M. Drinville et M. Lavoie.
Bonjour.
Bonjour.
Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce principe de ce système-là. Oui, c'est plus efficace, etc., mais on dit ça ne coûtera pas plus cher, c'est le même prix, la facture est envoyée au gouvernement. Le gouvernement va venir me rechercher ses impôts, ses taxes, ça ne sera pas trop long.
OK.
Pour combler ça.
Mais genre.
Et puis, deuxièmement,
oui,
deuxièmement,
oui.
C'est que quand ce système-là est instauré, OK, il a été fait en fonction de la population avec les coûts, etc. Mais l'augmentation des coûts de la santé a dépassé énormément, je pense, c'est juste mon opinion, là, mais ça dépasse énormément les vrais besoins des coûts de la santé.
Mais pourquoi?
Ce que je veux dire, c'est que sur-administration, sur-paperasserie, sur-gaspillage, on en passe.
Mais c'est pour ça, monsieur, que je pense à en donner plus au privé. C'est pour ça.
Yann, Jacques, merci pour l'appel. Je veux prendre un dernier appel. Yann, bonjour.
Hey, bonjour, ça va bien?
Bonjour.
Très bien, oui.
Oui, OK. Moi, je vais contrebalancer ça. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je vais vous expliquer mon point.
Ouais.
C'est que j'utilise le service, moi, au privé.
Ouais.
Et puis, ce que j'aime, c'est justement ça. C'est l'accessibilité que j'ai de prendre un rendez-vous, puis dans deux jours, je vais l'avoir. Par contre, si on mêle le public au privé, ben là, je l'aurai peut-être plus dans deux jours, là, si tout le monde se garoche là-dedans. Là.
Mais là,
vous voulez pas mélanger les genres, vous avez peur de la contamination.
Mais là, Yann, quand vous dites que vous avez accès au privé, là, sortez-vous de l'argent de vos poches, là? OK, mais là, on parle pas de ça. Là. Dans ce cas-ci, on parle pas de ça. Là.
On parle de services rendus par une entreprise privée à l'État.
OK.
Le patient, dans le cas qui nous concerne, là, les trois cliniques, là, le patient, là, mettons, il va se faire faire une opération là, mineure. Là. Il n'a pas besoin, comme vous, de payer. Là. Il sort sa carte d'assurance maladie parce qu'il y a une entente entre l'hôpital Sacré-Cœur et la clinique privée.
Oui, je suis d'accord. Sauf que moi, là, si je vois cette clinique privée-là,
oui.
Mais tout le monde sort sa carte soleil pour avoir l'opération. Moi, que je paye, là, je vais l'avoir bien plus. Ça va être bien plus long
je vous prédis qu'ils vont prendre l'expansion assez vite si c'est le cas.
Mais je comprends un petit peu. Yann, prenez-le pas mal. Prenez-le pas
il
mal.
Veut,
mais
il veut pas que le privé soit contaminé par la maladie publique.
Oui.
C'est un petit peu. Je paye pour aller plus vite.
Oui. C'est un petit peu égoïste, là, vous, là.
Ben, c'est pas égoïste, c'est un choix.
Ouais.
Je prends le choix de payer pour que ça aille plus vite. Ah,
je le respecte, votre choix, monsieur. Je le respecte, je fais la même chose.
Merci pour l'appel, Yann.
Merci.
Alors, là, on a quelques textos. Par exemple, le 10% de Rockland est amplement compensé par la diminution des remises de chirurgie pour différentes raisons. Ça, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas une opération, mais je vais dans une clinique privée payée par la RAMQ pour des échographies.
Ben oui.
Au tout début, j'avais un rendez-vous la semaine suivante, mais c'est devenu tellement populaire que maintenant, je dois faxer ma requête. Faxer. Et attendre qu'on m'appelle avec un délai de 1 à 2 mois. Là, c'est comme...
Je pense que c'est comme notre dernier...
J'allais dire, il donne raison à Yann, exactement. Il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit, il dit privé, public, j'en ai rien à péter en autant que ça fonctionne. Ça, c'est comme Deng Xiaoping qui avait dit que le chat soit noir ou qu'il soit blanc, l'important, c'est qu'il attrape la souris.
Voilà.
Hein? OK, on s'arrête. Au retour, on va parler de l'armée.
L'inondation,
hein?
Et de l'armée.
Oui, voilà.
Drinville PM. La voie est libre.
Et au total, au Québec, au moment où nous nous parlons, c'est près de 1000 soldats qui sont déployés partout au Québec, 960 pour être précise. Donc, c'est donc dire que toutes les ressources, toutes les mesures sont en place et font le maximum pour venir en aide à nos citoyens.
Ministre donc de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui est en train de donner un point de presse dont vous venez d'entendre un extrait. Là, j'ai les chiffres, Luc. Il y a 210 militaires qui sont déployés en Outaouais, dans le Pontiac et à Gatineau. T'en as un autre 200 qui sont Mauricie, centre du Québec, en particulier à Trois-Rivières, Bécancour, Louisville, Yamachiche, Masquinongé. T'en as 210 qui sont à Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, mais surtout à Laval. T'en as 240 en Montérégie, Rigaud, Saint-Hubert, Saint-Jean. puis tu en as 100 qui sont dans la région de Chaudière-Appalaches, en particulier en Beauce, qui ont subi les pires, le plus gros des inondations. Donc, presque 1000 militaires.
Toi, ce qui est beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Là. En passant, il y a 2 ans, il était 2600 qui avaient été déployés.
Oui, mais ça pourrait encore augmenter.
Ah oui, ça peut augmenter.
Ça pourrait encore augmenter.
Moi, je voulais profiter de cette occasion-là pour vous dire que les forces armées canadiennes, je ne sais pas, moi, il y a 25 ans, là, au moment des inondations au Saguenay, des inondations au Manitoba, tout ça, ils avaient fait un excellent travail.
Oui.
Mais ils n'étaient pas... À un moment donné, ils se sont rendus compte que ça deviendrait de plus en plus partie de leur mandat. Et les ministres qui ont été en place ont insisté là-dessus. Alors l'armée a développé... Parce que l'armée a les qualités de ses défauts puis les défauts de ses qualités. Les défauts de ses qualités, c'est que c'est une machine lourde, bureaucratisée... La qualité des défauts, c'est que quand ils mettent au point un plan d'intervention et de déploiement, ils sont d'une précision absolument incroyable. Or, ce qui a été créé maintenant, c'est ce qu'on appelle l'unité d'intervention immédiate. C'est un groupe qui fait partie de la 5e brigade qui est basée à Valcartier, où tu retrouves des soldats qui sont des artilleurs, des blindés et l'infanterie.
Des fantassins. 22e.
Plus les compagnies de soutien, logistique, ingénieurs et tout ça. Ça, c'est la 5e brigade. C'est la 5e brigade qui a la responsabilité pour cette région où nous sommes, le Québec et l'Est, d'intervenir par l'unité d'intervention immédiate. Donc, quand le ministre officiellement envoie sa lettre, tu sais qu'en dedans de 5 heures, dans tous les coins où il doit y avoir un déploiement, il y aura une équipe d'à peu près 150 éclaireurs qui sera sur les lieux et qui, à mesure qu'ils vont découvrir ce qu'il y a devant eux, vont commander, parce qu'il y a des grands hangars là, qui sont tout prêts à Valcartier, type de véhicule
à Longue-Pointe.
Et t'en as également dans la région d'Ottawa. Alors, t'as les véhicules parfaitement appropriés pour ça, qui ont été choisis d'avance. T'as les fameuses bottes de pêcheurs que portent nos soldats. T'as les sacs de plastique, mais t'as aussi les véhicules blindés. T'as aussi... Et il s'agit de ce qu'ils appellent la force opérationnelle interarmée. Donc, la marine militaire canadienne intervient avec des Zodiacs et tout ça. Et le déploiement se fait d'abord, l'unité d'intervention immédiate, c'est la force régulière. À la tête de ça, t'as la 2e division canadienne commandée pour la première fois de l'histoire du Canada. C'est une femme qui commande une unité de combat.
Très présente, d'ailleurs.
Très présente.
Les derniers jours...
Très respectée, d'ailleurs, Mme Jenny Carignan, général Jenny Carignan. En dessous d'elle, t'as le colonel Arsenault qui commande la 5e brigade et c'est en rotation par unité. À l'heure actuelle, c'est le 2e bataillon du Royal 22e Régiment, le lieutenant-colonel Bertrand qui commande ça. Alors, eux autres se déploient à une vitesse incroyable, comprends-tu, et avec une immense efficacité.
Ils sont devenus bons, dans le fond. Hein?
Ils sont très, très bons, sont très préparés. Et là, entre en ligne de compte la 2e étape. C'est que là, on déploie ce qu'on appelle le groupe bataillon territorial, c'est-à-dire des forces de réserve. À l'heure actuelle, le groupe bataillon territorial est commandé par le commandant du régiment de Maisonneuve à Montréal, le lieutenant-colonel Stéphane Tremblay. Et là, il doit y avoir à peu près 400-500 réservistes qui sont déployés. Tu peux être sûr que dans la région de Québec, ça va être évidemment le régiment de la Chaudière puis les voltigeurs de Québec. Ici, à Montréal, le régiment de Maisonneuve, les fusiliers Mont-Royal et d'autres. Et dans la région de l'Outaouais, vous allez avoir le régiment de Hull qui vont se déployer. Et ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. En plus... Il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Là, okay? Quand l'armée se déploie...
Ce qui fait ton bonheur.
Oui, ce qui fait mon bonheur, parce que ça ne marcherait pas. Alors, tu as des gens qui travaillent 16, 17, 18 heures par jour, si ce sont les ordres. Puis au bout de quelques jours, on les envoie se reposer, puis il y en a d'autres qui arrivent.
Oui, parce que, j'ai regardé les images encore un matin, là. Ils passent la journée à remplir des sacs de sable, puis à soulever des sacs de sable, puis à se lancer des sacs de sable, puis à construire des digues en sacs de sable. Physiquement, c'est extrêmement difficile ce qu'ils font.
Ils ont accès
à
des satellites espions qui nous permettent d'avoir une cartographie d'une précision incroyable.
Non, mais quand tu dis qu'ils se relaient, là, ils ont besoin de se relayer.
Ah, ben oui,
physiquement, là.
Humainement, c'est pas faisable de continuer comme ça. Alors, moi, je trouve qu'ils sont devenus absolument admirable dans ce type d'intervention. Ici, c'est des gens du Royal 22e Régiment qui commandent cette affaire-là. Mm-hmm. Ce sont des gens de toutes les unités. Il y avait hier sur le terrain, en train de travailler, à mettre des sacs de sable, puis tout le reste qui vient avec, puis à déplacer des choses et tout ce que tu veux, 40 femmes. Il y avait 40 femmes dans les forces de combat.
Très bien, très bien.
Moi, je connais dans mon propre régiment les fusiliers Mont-Royal, le sergent Bilodeau.
Toi, t'es colonel en quoi?
Colonel honoraire des fusiliers Mont-Royal.
Comment est-ce qu'on devient colonel honoraire?
Écoute,
le monde qui nous écoute, là, peuvent-tu donner le colonel honoraire, eux autres? T'as-tu été dans l'armée, toi?
Un tout petit peu quand j'avais 17, 18
ans. Ton père est un militaire.
Mon père est un militaire, puis moi, j'ai fait un court séjour, oui, effectivement. Okay. Mais c'est pas pour ça que je suis colonel honoraire, c'est parce qu'ils me trouvent beau.
Bon,
en plus, ils ont dit, tu connais Drainville. Ah, ouais.
Ah, ça, c'est sûr, c'est une bonne référence. Pour confirmer si vous le trouvez beau ou pas, vous pouvez le regarder sur Facebook, comme à tous les jours. C'est diffusé présentement. Je veux juste te dire, j'ai des petites informations.
Lieutenant-colonel Tremblay, colonel Arsenault, général Carignan, tous des gens d'ici, là, comprends-tu, qui font un travail remarquable, je veux le souligner.
Oui, mais tu fais bien. Et je veux juste te dire, ce matin, je disais à Paul Arcand, je disais, Legault, ses ministres sont très présents. Valérie Plante, très présente en fin de semaine, bravo.
Oui.
Je disais, oui, Justin. Puis je regardais son horaire du temps, Justin, puis...
La dernière fois, pourtant, il y a 2 ans, il était là.
Un petit peu. Ces derniers jours, il a passé beaucoup de temps dans l'Ouest, Colombie-Britannique. Aujourd'hui, il est en Saskatchewan. Mais je disais, il devrait venir faire son tour parce que l'armée fait bien ça, puis il est premier ministre. Je veux dire, à un moment donné, c'est normal. C'est normal, puis bon, ça, j'ose pas rajouter ça, mais t'as bien raison de le dire. Il s'en va en élection. Tout ça pour te dire que je viens d'avoir un texto d'une source à Ottawa qui me dit... Je vais avoir des informations pour toi en fin de journée. Et moi, je te dis...
Je me doute un peu, c'est qui ta source, mais jamais tu révéleras tes sources.
Jamais.
Justin Trudeau va arriver demain.
Je pense que Justin Trudeau... Je sais pas si ça va être demain, mais je pense que Justin Trudeau va venir faire son tour. Il va se déguiser en militaire. Comme
fantassin.
Jean Chrétien dans le temps, avec son casque à l'envers.
C'est ça, il faudrait juste s'assurer que le casque est du bon bord, là, comprends-tu?
À voir.
Félicitations à nos militaires, on est vraiment fiers d'eux.
Tu as absolument raison. Merci, Luc. À demain. On s'arrête au retour, reconnaissance faciale, aussi bien s'habituer parce qu'il va en avoir de plus en plus.